Même audio. Vous ne l'avez pas vu? Vous pouvez l'entendre.
Ce sont les réalités physiques, effectivement, de ce globe qui vont donc dicter ce qu'on appelle le développement. Dans les mots développement durable, soyons très clairs, on a retenu le mot développement, absolument pas durable. Bon, mais ça avait quand même le mérite d'exister. Voilà. Et donc maintenant, on passe dans une autre ère. Et on fait en sorte de se mettre en bataille les uns les autres, en ordre de bataille, et non pas en bataille, ou alors si, contre effectivement les sécheresses et contre ce qui est en train d'arriver, pour que notre vie demain ne soit pas qu'une somme de soustraction. Et donc c'est ça qui est intéressant aussi. C'est un défi collectif. On ne l'avait pas avant. Donc je ne reprends pas les mots du bien commun, etc. et tout ça, parce que c'est un peu des mots valises. Mais donc maintenant c'est ça. Alors on va essayer de trouver donc des solutions. On va d'abord faire effectivement le constat. Emma Aziza, rejoignez-nous s'il vous plaît. Jean-Michel Soubérou également. Venez, venez. Donc Emma qui est diplômée en hydrologie de Landgraaf, qui est docteur à l'École supérieure des mines de Paris, en gestion donc des risques. Elle a été pendant plus de 10 ans en cellule de crise. Je t'en prie, Jean-Michel, allez, rejoins-nous aussi. Oh, je ne sais pas où tu oui, il n'y a pas exactement un plan de table, donc c'est absolument formidable. Et Emma a aussi créé donc Mayan Lab, et qui permet effectivement de travailler sur les transitions sur les territoires, ce qui lui importe. Donc elle travaille avec des chercheurs d'un petit peu partout, différents ESAR, mais pas que, pour effectivement l'adaptation de nos territoires. Et puis, ben, nous avons quelqu'un aussi de... C'est quand même bien capé, Jean-Michel Soubérou, je le fais rougir, directeur adjoint scientifique de la climatologie à Météo France. Et alors, on va se faire d'abord dans un premier point un constat, puis après, on va essayer quand même de trouver des solutions, parce qu'on n'est pas là pour se gratter, pour se faire souffrir et se désespérer totalement. Loin de là. Ça, je laisse ça parfois à nos petits camarades des médias. Et puis l'univers ambiant, quoi. On est des êtres humains, donc à la fois, il ne faut pas être bisounours d'un côté, mais on n'a pas le droit de désespérer les gens. Moi, ça a toujours été ma ligne, si vous voulez, dans les différentes émissions. Prenez ce micro, cher Emma, on va commencer effectivement, peut-être, et après on va arriver sur le territoire, hein, je vous rassure, on sait où on est, là, on est chez nous, en Occitanie, on est bon. Donc on va pouvoir en parler. En fait, je reprends une de vos formules qui est toute simple, on rentre dans l'inconnu quand même aujourd'hui.
Et oui, on rentre dans l'inconnu parce que depuis le mois de juin l'année dernière, nous avons atteint une température moyenne mondiale qui n'avait jamais été enregistrée dans l'histoire, en tous les cas, de la météorologie et des enregistrements. Et donc, on se rend bien compte que eh bien, nous avons traversé des mois consécutifs. On est sur le 26e mois consécutif de record historique de température mensuelle en France. Et donc, ça signifie quelque chose de très particulier parce que, eh bien, la France, initialement, est un pays tempéré qui n'a jamais manqué d'eau. J'ai pu vivre, il y a peut-être très longtemps, dans les années 95-96, à Toulouse. Je me rappelle justement du brouillard, de la brume matinale. Et nous sommes actuellement en train de la perdre, cette brume, parce que ce cycle de l'eau est en train actuellement de se déformer, tout simplement parce que ces températures qui sont plus élevées eh bien, vont avoir un impact sur l'ensemble des étapes de ce cycle de l'eau. Et donc, comprendre que la France, notre pays, qui n'est effectivement ni l'Australie, ni la Californie, mais qui est tout de même le pays qui se réchauffe le plus rapidement dans le monde, 20% plus vite que le reste du monde, c'est comprendre à quel point la vitesse de transformation est extrêmement brutale. Et à quel point il va falloir, si l'on veut se préparer, anticiper, avoir des longueurs d'avance, faire comme aux échecs, avoir plusieurs coups d'avance. Pour ça, il faut regarder l'horizon, et il ne faut pas regarder nos pieds. Et donc nous devons de comprendre ces défis que l'on a. Et c'est complexe d'analyser ces défis lorsque chaque année est différente, lorsque chaque année ne se ressemble pas. Et pourtant, eh bien, on voit très bien une tendance très claire. Entre 2000 et 2015, nous n'avons fait qu'additionner les mêmes conséquences, d'ailleurs les mêmes titres dans la plupart des journaux. Vous reprenez les journaux dans le monde, eh bien, c'est 2016, année la plus chaude jamais enregistrée dans l'histoire de France, dans l'histoire d'Europe, dans l'histoire du monde, mois le plus chaud. Donc en réalité, nous avons eu un premier métrique qui était la température. Pendant ces 15 premières années entre 2000 et 2015, sauf qu'il n'y avait pas d'impact tangible, visible, direct sur le cycle de l'eau. Pas palpable en tous les cas, comme on a pu le voir avec violence ces dernières années.
C'est-à-dire qu'à cette époque-là, on a eu des sécheresses, c'était par manque de pluie,
Bien sûr qu'on a eu 2003, qui a été une canicule exceptionnelle avec 70 000 victimes dans toute l'Europe. On a eu une sécheresse extrême en 2005, qui avait fait d'ailleurs très peur au gouvernement à l'époque et qui avait commencé à initier une véritable réflexion sur les économies d'eau. Moi, je peux vous assurer qu'il y a à peu près 15 ans, quand vous parliez faire des économies d'eau, vous regardez, on vous dit « mais pourquoi ?» Je ne comprends pas, je ne vois pas l'intérêt. Et je crois que tout ça est en train d'arriver de manière très claire. Et donc, ce qui est intéressant, c'est qu'on a très peu de recul et d'angle de vue pour comprendre ce qui se passe. Mais par contre, on a des éléments. 2017 a été la première année qui nous a marqués parce que 10 mois quasiment consécutifs sans une goutte de pluie sur la France, eh bien, ça veut dire beaucoup de choses. Ça veut dire beaucoup de systèmes économiques qui, à un moment donné, ne tiennent pas aussi bien, que ce soit sur le plan agricole, mais bâtimentaire, sur le plan de l'organisation même de nos vies, de nos sociétés. Et donc, ce qui est intéressant, c'est de regarder 2018. Alors, pourquoi je vous parle de 2018 ? C'est parce que cette année-là ressemble énormément à l'année qu'on est en train de vivre actuellement. 2018, c'est une année où nous allons avoir une bascule à partir du 27 décembre entre une sécheresse dont on avait l'impression qu'elle ne s'arrêterait jamais, et d'un coup, eh bien, des pluies continues qui vont arriver sur le pays, qui vont arriver tellement puissamment qu'on va avoir une crue de la Seine sur le bassin parisien. On va avoir plus d'eau sur le bassin parisien en janvier 2018 que l'on a eu d'eau en janvier 1910 lors de la grande crue de la Seine, vous savez, cette fameuse crue où les Parisiens naviguaient dans des barques. Donc ça signifie déjà qu'on gère beaucoup mieux l'eau, qu'on la récupère tout de même et qu'on la canalise mieux. En tous les cas, on n'a pas eu les mêmes dommages.
Et on a les grands bassins aussi en amont. Donc.
On a 810 millions de mètres cubes d'eau dans les 3 grands lacs réservoirs. Et donc ce qui est intéressant, c'est de voir à quel point le printemps a été pluvieux. Et à ce moment-là, on baisse nos écoutilles. On a tendance à se dire qu'il n'y a plus de problème. Parce que lorsque l'on voit arriver la pluie, eh bien, on se dit que finalement, on est serein, qu'il n'y aura en réalité des nappes rechargées. Et effectivement, l'année 2018, c'est le 3/4 du pays qui a plus de 30% de recharge excédentaire par rapport à une année normale. Et pourtant, il a suffi de 3 semaines de canicule durant l'été 2018 pour qu'on rebascule dans une année de sécheresse historique pire que celle de 2017. Comprendre ça, c'est comprendre que les bascules sont très rapides et qu'il va falloir jouer avec le cycle de l'eau et pas contre le cycle de l'eau. Nous ne pouvons plus faire autrement. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il faut comprendre que la sérénité que l'on a acquise dans le Nord et dans une grande partie de la France, qui n'est effectivement pas celle des Pyrénées-Orientales actuellement, cette disparité des pluies que l'on a, eh bien, malgré tout, ça ne signifie pas pour autant qu'on est serein. Ça signifie qu'on est sur une variabilité, effectivement, et qu'il va malgré tout falloir la respecter, cette goutte d'eau, essayer de l'optimiser, essayer de la gérer dans son cycle. Et le meilleur moyen de la gérer dans son cycle, c'est de l'utiliser lorsqu'elle tombe et de permettre justement au sol, aux terres, au milieu, aux rivières, de la laisser pénétrer et de la laisser rejoindre ses nappes, parce que ces nappes, et je terminerai peut-être, messieurs, ces nappes, comme ça a été dit tout à l'heure, ça doit effectivement, et quel plaisir et quel bonheur d'entendre qu'effectivement, eh bien, on a des élus qui, à un moment donné, décident de sanctuariser cette question-là. Alors, votre parcours initial n'y est pas pour rien, effectivement, mais j'aimerais tellement que tous les élus en France soient des hydrogéologues.
Ils sont rares.
Initialement. Mais comprendre qu'une nappe, c'est ce qui va alimenter un cours d'eau. Comprendre que si vous voyez de l'eau lorsqu'il ne pleut plus, c'est la nappe qui alimente tout ça. Comprendre que on s'est trompé dans nos modèles scientifiques pendant des décennies. Il y a plus de 6 mois, il y a une publication scientifique mondiale qui est sortie, qui nous explique que c'est le niveau des nappes qui permet la fertilité des sols et donc le rendement agricole. Pourquoi ? Parce que ça permet d'humidifier les premières couches de sol. Ça signifie qu'une nappe, c'est un socle qui va gérer tout le territoire et tout le vivant, qui va gérer nos rivières, qui va gérer nos sols, qui va gérer justement cette manière également de capter le carbone dans le sol, parce qu'on parle beaucoup du carbone dans les logiques climatiques, mais si vous voulez capter 2 molécules de carbone, eh bien, il va vous falloir 12 molécules d'eau dans le sol. Si vous ne les avez pas, il n'y aura jamais de puits de carbone. comprendre que tous ces cycles fonctionnent ensemble, c'est comprendre qu'à un moment donné, il va falloir réfléchir de manière beaucoup plus globale et il va falloir effectivement préserver certains milieux qu'on a totalement oubliés. C'est tellement facile d'aller piocher dans une nappe et chacun à son échelle de se dire que finalement on va servir ses propres intérêts alors que cette nappe, elle est effectivement commune. Aujourd'hui, nous devons réfléchir plus loin, ensemble et avec cette cohésion territoriale, essayer d'avoir cette analyse prospective parce que c'est notre futur qu'on est en train de dessiner.
Merci. Alors justement, donc ça, ce sera aussi parmi les solutions. On parlera donc du sol. Où jusqu'à présent, vous l'avez un tout petit peu remarqué, on a eu de cesse, Sébastien Vassini l'a dit aussi à demi-mot, mais on a eu de cesse effectivement d'envoyer l'eau le plus rapidement possible vers la mer, quels que soient les territoires, en voulant s'en débarrasser. Maintenant, on fait l'inverse. On va la retenir. Bon, ça, on en parlera effectivement dans les solutions dans une seconde partie. Jean-Michel Soubérou, donc notre homme de Météo France, donc prenez ce merveilleux micro. Vous observez tout ça depuis très longtemps. Le coup, ça va fonctionner. Non, non, bougez pas. Je pense que nos camarades vont ouvrir sans difficulté. On a merveilleusement déréglé le thermostat de la planète. Bon, on est en train de dérégler par voie de conséquence aussi l'hydrologie. C'est pas une bonne nouvelle. On est des animaux géniaux, mais sur les excès, on ne sait pas encore faire. Bon. Alors, une fois qu'on a fait effectivement ce joyeux constat, la température, elle monte. Tous les scientifiques, maintenant, effectivement, sont unanimes. En revanche, sur les précipitations, on ne sait pas encore bien, quoi. Donc, racontez-nous qu'est-ce qui se passe. Et puis aussi, en revenant peut-être sur ce bassin.
Oui, merci Denis. Oui, mon idée, c'était d'abord déjà de revenir sur ce constat du changement climatique et bien avoir en tête qu'il est planétaire. Et aujourd'hui, donc, l'Organisation mondiale de la météorologie communique sur le bilan de l'année 2023. Et je crois que ce bilan, il doit nous inspirer parce qu'en fait, ce qui se passe à l'échelle de la planète, c'est aussi ce qu'on vit au niveau de la Haute-Garonne. Mais voilà, mais c'est quand même, donc, on a affaire à un phénomène qui est mondial. Et ce qui se passe au niveau de la planète, les termes choisis par l'OMM sont quand même très très. Alors donc on parle d'un bilan alarmant parce que c'est ça la réalité. C'est à travers les solutions qu'on rend la situation non anxiogène. Mais le bilan lui-même, il est alarmant et on parle d'une situation hors norme parce que les records qui sont battus, c'est pas comme les autres records, ceux qui ont été battus en 2023. C'est-à-dire qu'on explose les records et donc quand on regarde les courbes d'évolution des températures à l'échelle planétaire, quand on regarde notamment l'évolution de la température des océans, on voit des choses aujourd'hui en 2023 qu'on ne voyait pas jusqu'à présent. Et donc voilà. Donc on est sur un bilan qui doit quand même particulièrement attirer notre attention. Donc ce qui se passe à l'échelle planétaire. Et donc moi je vous invite à aller regarder donc ce bilan de l'OMM, même s'il n'est pas spécialement rassurant. Il n'y a rien de rassurant dans ce qui se fait aujourd'hui, ce qu'on observe aujourd'hui sur le climat. Donc le bilan, donc l'année 2023, c'est 1,45 degré. Au-dessus donc du pré-industriel, on voit qu'on est maintenant à quelques dixièmes de 1,5 degré.
Et donc on parle bien de climat et pas de météo.
Et là on parle de climat, donc c'est la différence, donc c'est la moyenne de l'année 2023 par rapport à l'ère pré-industrielle 1850-1900. Donc on se rapproche des 1,5 degré des accords de Paris. Et donc on voit maintenant que, je crois que et l'OMM annonce aussi qu'en 2024. Il est fort probable qu'on soit encore au-dessus, donc les 1,5 degré pour la première fois, donc c'est quand même assez probable qu'on les atteigne en 2024.
Et pour la France, c'est à peu près fait ici 1,7 degré.
Alors, donc, si on regarde sur Toulouse, voilà, donc ça, c'est l'image qui est affichée, hein, donc sur Toulouse, donc, on voit, on est par rapport à la référence 61-90, hein, et on voit donc que cela fait maintenant plus de 30 ans qu'on est systématiquement au-dessus de la normale 61-90. L'année la plus chaude, c'est 2022. Mais 2023, donc alors il y a un petit décalage de la barre, hein. Mais sinon 2023 est juste en dessous. Et donc le réchauffement donc à Toulouse, si on compare par rapport à 61-90, il est de 1,9 degré. Voilà donc ce que l'on vit. Et quand on veut expliquer aussi peut-être par rapport aux difficultés, le choc que l'on vit sur le territoire, c'est que moi, je regardais, j'ai été surpris quand je l'ai calculé, c'est que sur la dernière décennie 2014-2023, par rapport à la décennie précédente, Toulouse a vécu des températures 1 degré au-dessus de la décennie précédente. Donc, on a des dynamiques qui sont vraiment très, très violentes. Voilà, et qui donc, qui, c'est ce qui est vécu, mais c'est aussi voilà, donc ce qui est confirmé par, par les chiffres. Donc voilà, donc on est sur une situation de réchauffement tant au niveau global qu'au niveau local qui est violente en fait. Voilà, et donc c'est ça le défi que l'on a à relever. Alors donc si on le regarde donc sur la diapo suivante, voilà, donc à travers le cycle de l'eau, parce que donc on va en parler beaucoup aujourd'hui, donc bon, un petit graphique, c'est, ça permet finalement de retrouver un petit peu les éléments. Alors donc bon là il y avait des chiffres au départ un petit peu plus sur la diapositive, ils ont sauté, donc ça va pas être facile pour moi de la commenter, mais déjà c'était de dire sur les précipitations, donc la différence c'était entre la période 61-90 et puis la période 91-2020. On prend juste deux périodes de 30 ans et on regarde ce qui se passe. Les précipitations à Toulouse, elles ont diminué de très peu, mais un petit peu quand même, moins 4%. 4%, donc c'est de l'eau en moins qui est venue du ciel. Mais par contre, en termes d'évaporation, la demande évaporative, elle est liée principalement donc à l'effet température, elle a augmenté de quasiment 20%. C'est 20%, donc cette demande est évaporative, donc liée, donc, et on voit donc que notre cycle de l'eau sur, voilà, sur le bassin, il est quand même profondément modifié, et plus par les températures et la demande évaporative que par la diminution des précipitations. C'est le nouveau, le pilote de la situation, donc ce sont les températures. Donc il y a un autre élément important, essentiel sur le bassin, c'est la fonte de la neige. Voilà. Et donc sous ce stock de neige, puisque finalement c'est un stock décalé dans le temps, hein, donc le fait d'avoir de la neige. Alors par contre, cette neige utile pour les écoulements, notamment en été sur le bassin, c'est la neige que l'on a à la fin du printemps. Donc à la limite, la neige que l'on a actuellement dans les Pyrénées, c'est intéressant, mais elle risque d'avoir fondu avant d'être utile pour au moment des écoulements en été. Et donc ce manteau neigeux, il a diminué de 30%. À la date du 1er mai. Donc, les indicateurs que l'on a, c'est quel est l'équivalent en eau du manteau neigeux au 1er mai dans les Pyrénées. Aujourd'hui, donc, il a diminué de 30% déjà par rapport donc, à la période des 30 ans précédentes.
Et on ne parle pas des glaciers parce que là, effectivement, il reste 20 km² maximum. Donc,
Et donc, c'est un élément important de biodiversité, des paysages. Donc, ça, c'est important. Hein. Mais par contre, pour l'hydrologie sur le bassin, non, ça ne joue plus. Autre élément, donc aussi, et si on compare aussi par rapport à l'année 2022 ou l'année 2023, donc c'est de dire qu'à ce moment-là, donc c'est près de 4. En gros, il n'y avait pratiquement plus de neige donc, en 2023, au 1er mai. Donc c'est une contribution de nivelle qui n'a pas joué du tout. Et donc il a fallu que le bassin. Alors donc il y avait du stockage dans les retenues, mais c'était plus la neige qui était plus disponible pour alimenter directement donc les cours d'eau, c'était uniquement ceux qui avaient pu être stockés à travers les retenues donc qui existent aujourd'hui. Après donc en termes donc d'écoulement, donc l'écoulement de la Garonne, je regardais donc comment il avait évolué et donc il a diminué de 10% sur la moyenne annuelle entre donc les 30 la période de 91-2020 et 61-90. Donc on a des besoins qui ont énormément augmenté, mais la ressource en eau, puisqu'on puise beaucoup d'eau dans la Garonne, eh bien, elle a diminué. Donc on voit un petit peu cet effet de ciseaux. Et puis en termes aussi d'infiltration, donc parce qu'il y a une partie des précipitations qui sont reprises immédiatement par évaporation. Et donc la partie qui s'infiltre, que ce soit dans les sols ou que ce soit donc, dans les nappes, eh bien, elle a diminué aussi d'une dizaine de pourcents en même temps. Et donc on voit que tous ces indices, tous ces indicateurs, il nous amène donc sur une situation qui est plus difficile en termes de la gestion de l'eau aujourd'hui sur le bassin.
Chère Emma Aziza, en entendant tout cela, on a cette injonction, c'est-à-dire faut faire plus avec moins. Vous l'entendez partout. Ça crée des burn-out hein, dans tous les sens, mais ça, c'est encore autre chose au niveau humain. Bon, très bien. Faire plus avec moins, ça ne va pas être possible. Enfin, je ne vois pas comment on va faire. On va mettre évidemment de l'intelligence. On va mettre une part de technique. Sébastien Massigny l'a très bien dit. La technique, oui, c'est une des réponses, mais ça ne va pas être la solution donc à 100%, loin de là. Comment on commence à se projeter donc avec tout ça? Je le disais tout à l'heure, pour que notre vie ne soit pas non plus qu'une somme de soustraction, mais malgré tout, si on ne veut pas changer réellement de type de société, comment on fait? Moi, je ne sais pas. Donc,
Alors déjà, je pense qu'un préalable qui me semble essentiel, c'est qu'on réapprenne à comprendre comment fonctionne ce cycle de l'eau. On le voit ici et on le voit dans un milieu naturel. Vous ne voyez pas l'homme sur ce schéma. Le problème, c'est que ce schéma ne ressemble... En fait, ce schéma n'existe plus réellement sur Terre aujourd'hui, tout simplement parce que l'homme est arrivé, il détourne les cours d'eau. On a parlé de barrages tout à l'heure.
Alors, si on dit bien l'homme, attention, mesdames... Non, ne vous méprenez pas, parce qu'on dit maintenant, on dit l'humain. Non, c'est pas ça. Mais elle le dit sciemment, parce que ce sont les hommes qui, quand même, ont déréglé merveilleusement tout ça. Les désirs de puissance, ils étaient quand même extrêmement masculins. Donc, c'est bien pour ça que c'est pas un oubli de la part de... Voilà. Non, mais je vous le dis, parce que c'est... Et c'est pas pour flatter les dames dans la salle, parce que c'est pas l'idée. Mais c'était bien voulu. Quand vous voyez toutes les destructions, c'est plutôt les mecs qui les ont opérés. Les guerres, c'est les mecs qui les ont opérés. Enfin voilà. Je t'en prie, vas-y Emma. Donc l'homme, voilà.
L'homme qui s'est approprié ce cycle de l'eau fait que on nous a appris à l'école à quel point le cycle de l'eau est un cycle renouvelable. Aujourd'hui, ce cycle ne se renouvelle pas. Il essaye de trouver son chemin. Lorsque ce cycle de l'eau arrive sur une ville, le seul chemin qu'il va trouver, c'est principalement du ruissellement, éventuellement un peu dans les collecteurs de réseaux d'eau urbaine, et il va finir dans l'assainissement, où il va finir très très vite dans un cours d'eau à proximité, emportant tous les polluants sur son passage. On a oublié le sol, on a oublié la verticalité du cycle de l'eau. Aujourd'hui, tant qu'on ne comprend pas que, on a besoin de ce cycle dans son intégralité, on passera à côté du message. Vous savez, cette nuit, à 4h03, nous avons atteint le point d'équinoxe sur Terre, c'est-à-dire que nous avons aujourd'hui exactement la même quantité d'heures de notre nuit passée avec la quantité d'heures de jour. Nous amorçons donc le printemps depuis ce matin. Qu'est-ce que signifie le printemps ? Ça signifie que l'on va basculer dans une phase de vidange des nappes phréatiques. Pourquoi ? Parce que pour pouvoir pénétrer l'eau, elle a besoin qu'il fasse froid, elle a besoin que le sol lui laisse le temps de pouvoir pénétrer. Il ne faut pas qu'il y ait trop d'enjeux et trop, à un moment donné, de pression sur cette goutte d'eau. Or, quand le printemps va devoir naître, pour pouvoir avoir cette verdure, pour pouvoir avoir cette végétation luxuriante, tout le vert, toute la nature va aller chercher cette eau dans les nappes. Et toutes les pluies qui arriveront dans les mois qui viennent, ne seront plus des pluies efficaces pour la nappe, parce que plus jamais avant l'hiver prochain, nous n'aurons une goutte d'eau qui rejoindra cette nappe. Déjà, comprendre ces bases-là, c'est un préalable essentiel pour comprendre à quel point préserver cette nappe, ce n'est pas rien. On voit très bien qu'il y a des grands débats nationaux sur ces questions-là, mais c'est essentiel que nous comprenions tous ça. Pourquoi ? Parce que sur 100% de pluie qui tombe, le 2/3 repart tout de suite dans l'atmosphère. Et comme ça a été dit tout à l'heure, elle repart parfois même avant même d'avoir touché le sol. Vous avez dû voir des orages durant les phases estivales où finalement, nous n'avons même pas de pluie. Elle repart immédiatement. Mais même lorsqu'elle tombe, le 2/3 repart. Il ne reste qu'à peu près 26 à 32% qui ruissellent. Et dans un contexte idéal, dans un scénario de laboratoire, où nous n'avons ni compacté les sols, ni urbanisé les sols, ni encrouté ces sols, dans un contexte idéal, un sol permet à 9% d'une pluie de pénétrer dans une nappe. Ça signifie qu'aller chercher dans une nappe, c'est aller chercher l'équivalent de 10 fois ce que vous allez chercher en surface. Et donc, comprendre à un moment donné ces enjeux, comprendre à quel point, finalement, ce cycle de l'eau est bien plus complexe que l'on imagine, c'est commencer à amorcer déjà tous ensemble des éléments de réponse. J'ai encore un petit peu de temps. J'aimerais peut-être vous raconter, en ce jour d'équinoxe, une version peut-être un peu plus poétique du cycle de l'eau. Vous savez, pour pouvoir se générer, pour pouvoir se créer une pluie, on parle d'ensemencement. D'ailleurs, on en parle de manière artificielle quand on dit on va ensemencer des nuages.
Avec du iodure d'argent.
Avec du iodure d'argent. Ce qui est très pratique pour les Jeux Olympiques à Pékin. Derrière, on contrôlait exactement le nuage, on le faisait pleuvoir avant, il faisait toujours beau là où on désirait. On est très fort pour ça. C'est pratiqué dans la plupart des pays du monde, beaucoup d'ailleurs en Amérique du Sud. Et quand on a eu des grandes crises médiatiques sur les bassines en France, c'était intéressant de comprendre qu'au Mexique, les crises médiatiques et la pression agricole était uniquement sur l'ensemencement des nuages. La question des bassines n'existe nulle part ailleurs, à part chez nous.
Les processions marchent très moyennement dans les Pyrénées-Orientales.
Oui, alors, il va falloir qu'ils prient encore beaucoup. Donc, tout ça pour vous dire que cet ensemencement des nuages, à la base, c'est un phénomène naturel. Un phénomène qui existe tout simplement parce qu'il faut une graine pour générer une pluie. Une goutte de pluie ne peut pas naître sans une graine. C'est pour ça qu'on parle d'ensemencement, tout comme on parle du fait de mettre des semences et qu'une graine va générer une plante. Eh bien, on utilise le même vocabulaire pour la pluie. Il y a trois possibilités pour pouvoir nucléer une goutte d'eau, c'est-à-dire générer cette goutte de pluie. La première, c'est d'avoir une molécule de glace dans l'atmosphère. Et effectivement, elle va attirer à elle toutes les gouttelettes d'eau qui finalement, à force de gravité, sera assez lourde et finira par retomber. Le deuxième élément qui rend cette pluie possible, eh bien, c'est le sel. Alors, ce sont nos océans, sauf que, eh bien, quand on regarde bien comment ça se passe, effectivement, vous avez, lorsque l'eau s'évapore de nos océans, elle laisse le sel sur place et elle repart toute seule sous la forme de vapeur d'eau. Mais, et c'est plutôt les Bretons qui connaissent bien ça, vous avez des alizés, vous avez des vents qui permettent de récupérer ce sel qui repart dans l'atmosphère. Et ce sont ces molécules de sel qui permettent de générer des pluies sur tous nos océans. Et donc, ce n'est pas rien de comprendre ça, parce que ça permet de comprendre que 80% des pluies qui tombent, tombent sur nos océans. Et donc, il reste à peu près 20%, 21% pour être très juste, qui vont tomber sur les continents, c'est-à-dire qui vont partir de l'océan en direction de chez nous. Et pourtant, le deux tiers des pluies qui sont générées sur les continents. Pourquoi ? Parce qu'il y a aussi une molécule qui permet de générer des pluies continentales. Et on a découvert, c'est un chercheur qui a découvert ça en 1982, à l'époque il est passé pour un farfelu, on ne l'a pas cru dans le milieu scientifique, et aujourd'hui c'est avéré et prouvé partout, par tous les modèles. Eh bien, en fin de compte, c'est une bactérie. Cette bactérie, qu'on appelle glaciogène, elle va réussir à être emportée par le vent comme l'est le sel dans nos océans. Elle va remonter dans l'atmosphère et cette bactérie va permettre d'attirer à elle toutes les micro-gouttelettes d'eau et de générer de la pluie. Et donc, ça signifie que cette bactérie, une fois qu'elle est en l'air, lorsqu'il y a de la pluie qui tombe, eh bien, elle va tomber. Si elle tombe sur un végétal ou sur un arbre, eh bien, elle va reproliférer parce que c'est une bactérie qui n'existe que sur notre végétation. Si elle tombe sur le sol, eh bien, à ce moment-là, elle n'existera plus. Ça signifie quoi ? Ça signifie que tant qu'on ne comprendra pas que déjà ce cycle de l'eau est vivant, il n'existe que parce qu'il y a des bactéries, tout comme nous tous, dans cette salle, nous sommes composés de beaucoup plus de bactéries que de cellules humaines.
Ben oui,
nous sommes des énormes bactéries à nous tout seuls. Eh bien, comprendre ça, c'est comprendre qu'il va falloir jouer avec, comprendre qu'il va falloir laisser ce végétal renaître sur nos territoires, qu'il va falloir le laisser partout, parce que ça va être la garantie de nos futures pluies. Et donc, à partir de là, si on pose un peu les jalons de ce qui sont ces bases-là, on évitera sans doute les mauvaises, ou j'ai envie de dire, les fausses bonnes solutions que l'on met trop rapidement en œuvre et qui ne nous assureront pas notre futur.
Ce qui veut dire qu'en fait... Il faut s'occuper du microbiote aussi des sols, le nôtre, mais donc aussi des sols, et ça, on pourra aussi donc y revenir. Non, mais c'est tout à fait intéressant. Dis donc, nos merveilleuses saloperies de plastique, là aussi, donc, alors, est-ce qu'une goutte de pluie peut s'accrocher ? Parce que maintenant, on en a partout, on en a donc aussi dans l'air. Est-ce que ça peut aussi générer, être un support pour une goutte de pluie ou pas ça,
Alors, d'après les dernières études, non. Mais par contre, effectivement, les microplastiques sont en train d'envahir l'intégralité des cycles de l'eau. C'est-à-dire que même quand on va dans les montagnes, on récupère en fait, du microplastique issu directement derrière des précipitations générées. Donc, en fait, on a un vrai sujet. Je reviendrai peut-être dessus parce que je voudrais peut-être raconter cette... je vous le dis rapidement,
vas-y.
Mais... Donc, je suis partie en Colombie l'année dernière vivre avec des Indiens Kogi. Ouais. Nous étions 6 scientifiques en train de chercher à créer une amorce de dialogue avec un peuple autochtone qui vit de la même manière depuis 3500 ans. Et nous avons passé plusieurs semaines dans 6 communautés pour essayer de comprendre leur langage, leur manière de voir le monde, et puis la nôtre, scientifique. Et 6 heures par jour, nous avons discuté, palabré. Et le dernier jour, à la dernière heure, lorsque nous sommes partis, eh bien, on nous a regardés et quelque part, l'organisateur leur a dit « Mais est-ce que vous voulez poser une dernière question aux scientifiques ?» Et ils leur ont dit « Oui, il y a quelque chose qu'on ne comprend pas. Pour nous, comprendre des choses, c'est comprendre qui sont les pères et les mères des choses. Et on ne comprend pas ce qu'est ce plastique. D'où vient-il ? Pourquoi il y en a partout dans notre vallée ?» Et nous avons passé des heures à essayer de leur expliquer comment a été créé le plastique mondial, à quoi il servait, etc. Mais surtout, nous leur avons expliqué comment ce plastique finissait dans les rivières, finissait dans nos océans. Et donc, on a engagé une fabuleuse discussion. Et il y a un mois, une nouvelle délégation est repartie vivre avec ces Indiens Kogi. Et ils ont, en un an, décidé collectivement d'aller chercher la moindre molécule de plastique dans l'intégralité de leur montagne. Et ils les ont récupérés. On leur avait expliqué qu'il faudrait mieux les récupérer, et même si ce n'était pas idéal, les mettre dans un circuit plus bas avec une gestion des plastiques dans les villes. Eh bien, il n'y a plus une seule molécule de plastique qui traîne. Comme quoi, en très peu de temps, on peut faire beaucoup de choses à partir du moment où vous comprenez effectivement quel est le bon chemin.
De toute façon, dans notre... De toute façon, on est absolument dans ce moment où, bon, cette phrase, vous la connaissez, quoi. Mais je crois que c'était notre voisin Montpellier, hein, Edgar Morin, qui disait, de toute façon, on n'a plus le temps d'être, on n'a plus les moyens d'être pessimiste, donc de toute façon, il faut y aller, il faut avancer. Et là, évidemment, là, tu parles d'un peuple, donc Pachamama, qui est cher à Philippe Descola, qui habite dans le Lot. Je vous renvoie là, sur les émissions là, de CO2 Mon Amour, parce que vous l'avez pendant 2 semaines, et donc ce rapport entre nature et culture. Donc évidemment que là, eux savent qu'ils font partie donc de cette nature, ce qui est un tout petit peu différent chez nous, me semble-t-il, avec une certaine arrogance, on se considère au-dessus donc de tout ça. Jean-Michel Soubérou, est-ce que alors très souvent, là je le dis exprès, ça c'est les petits copains là dans les médias qui connaissent pas forcément toujours grand-chose, mais quand on dit, je parle en matière d'environnement et d'écologie au sens large, même si le mot environnement, ce qui nous environne, ça va pas, surtout après ce que je viens de dire après Descola, mais peu importe. Est-ce que le climat, on dit très souvent, on va avoir le climat de l'Andalousie à Toulouse. Je sais que c'est tout à fait contestable hein, ce que je suis en train de dire, mais alors qu'est-ce que l'on peut dire? Comment on se projette? Qu'est-ce que ça va être demain? Donc
voilà.
Voilà.
Donc on a des... Je me demandais si la diapositive allait fonctionner. Youpi. Donc voilà la question, donc aurons-nous le climat de l'Andalousie? Alors d'abord, ce que je voulais dire, c'était que pour construire donc les projections sur le futur, donc c'était pas de simples extrapolations des tendances actuelles. Voilà. Et donc c'est vrai que les tendances nous éclairent, nous disent des choses, mais c'est pas comme ça que l'on peut construire donc les scénarios du futur parce que les phénomènes ils sont pas linéaires, parce qu'on voit par exemple sur la neige qu'il y a des effets de seuil, que voilà quand on passe le 0 degré, ben au lieu d'avoir de la neige on a de la pluie, et puis ben, ça change beaucoup de choses, et donc ce sont pas des tendances linéaires, et que le cycle de l'eau, donc on voit quand même qu'il y a une certaine... Il y a différents processus et que tout ça, ce ne sont pas des processus linéaires.
Ce qui bloque d'ailleurs les canons à neige, on appelle ça très joliment les neiges de culture, mais enfin, ce sera ça aussi. Donc, il y a un moment, il faudra quand même des températures négatives.
Ça donne la limite donc, à l'utilisation de la neige de culture, parce qu'il faut quand même que les températures soient négatives. Sinon, on fait de l'eau et c'est moins intéressant pour la pratique du ski. Alors donc, le premier graphique donc qui est à gauche, donc qui donne donc les différents scénarios du GIEC. Alors donc ces scénarios, donc ça correspond à des scénarios qui sont définis par les économistes. Ce sont des choses qui sont jugées possibles par les économistes. Alors ça ressemble pas donc aux scénarios que l'on voit des fois pour la COP où on a des ruptures. D'un coup donc on arriverait donc à la neutralité carbone en 2050 de manière brutale, parce que dans l'économie réelle, et donc finalement ce que l'on voit ici dans les économies réelles, donc diminuer de 5% par an les émissions de gaz à effet de serre, ce qui serait une contraction du PIB mondial, aujourd'hui c'est pas jugé crédible quoi au niveau des économies. C'est peut-être ce qu'il faudrait faire, mais en tout cas, donc, dans les scénarios qui sont étudiés, qui sont pris en compte dans les modèles de climat, eh bien, on voit qu'on a des choses qui sont un peu plus lissées. Hein. Et donc, encore, donc, le scénario qui le plus vertueux, donc, il a été rajouté récemment, puisque c'est suite au dernier rapport du GIEC, le rapport spécial 1,5 degré, donc, que l'on a rajouté ce scénario là qui permettrait d'atteindre une neutralité carbone en milieu de siècle, alors que ça paraît quand même assez loin de la situation actuelle. Donc voilà, donc on se dirige plutôt sur des scénarios, donc des missions là, qu'on espère donc qui passeraient par un maximum donc au cours de la seconde moitié du 21e siècle et puis qui peut-être diminuerait. Mais tout ça, ça nous montre qu'il y a un élément important, c'est que tant qu'on continue à avoir des émissions nettes positives de gaz carbonique, eh bien, la température elle va continuer à augmenter sur la planète.
On est à peu près à combien aujourd'hui en augmentation d'émissions de gaz à effet de serre, tout compris, que ce soit donc le fameux CO2, mon amour ou pas, le méthane, le protoxyde d'azote de l'agriculture, on est à quoi, 1%, 2% par an?
On est encore à 1% par an, alors qu'il faudrait que l'objectif, c'est de diminuer donc de 5, et on est encore à plus 1, et de 5 tous les ans, hein, donc, et là, on est encore à plus 1. D'accord. Et donc, on est toujours à battre. Et donc, c'est le rapport de l'Organisation mondiale de la météorologie donc, qui est publié aujourd'hui. C'est qu'en 2022, on a encore battu le record précédent et qu'en 2023, les émissions de 2023 vont être encore supérieures à celles de 2022. Donc, l'inflexion, on ne l'a pas. Donc, on a une augmentation qui est moins rapide que ce que l'on avait dans la décennie précédente, mais on n'a toujours pas entamé l'inflexion qui est absolument nécessaire si on veut que les températures arrêtent d'augmenter. Et donc, le diagramme du bas, c'était pour dire qu'il y a un effort particulier pour produire des données climatiques sur la France. Donc, on parle de modèles globaux, donc qui couvrent l'ensemble de la planète. Donc, on a des exercices pour produire des modèles donc, à l'échelle de l'Europe, ce qu'on appelle des modèles régionaux. Puis ensuite, il y a des corrections qui sont faites sur la France. Et puis, la dernière image, c'est pour dire que à la fin, donc, on va produire des simulations hydrologiques sur près de 4000 points. De stations de débit en France. Et voilà, donc il y a un effort très important aujourd'hui pour que la donnée climatique elle soit disponible pour les exercices d'adaptation et pour adapter nos activités.
Ce qui veut dire que demain, idéalement, il faudrait que dans ce qu'on appelle donc dans les PLUE, donc les plans locaux d'urbanisme et environnementaux, il faudrait qu'il y ait une prise en compte de l'eau, de la même manière que notre joyeux PIB, qui a été d'ailleurs effectivement un instrument de mesure, qui a été valable à la sortie de la guerre. Moi, je ne le fustige pas, etc., donc à la sortie de la guerre, très bien. Qui en fait la manière de prendre en compte l'accumulation des biens et des services, mais en se fichant complètement de ce que l'on doit. Donc ça, c'est autre chose. Ça veut dire que ça ne tient plus la route, quoi, sur un indicateur comme celui-là.
Ça veut dire en tout cas qu'aujourd'hui, on a toutes les données disponibles pour la prise en compte dans la planification.
D'accord.
Donc des futurs de l'eau. Donc on est en hydrologie naturelle. Voilà. Et après, donc, l'exercice qui est à faire à l'échelle des territoires, c'est de réfléchir à quels usages de l'eau et comment on va se répartir cette ressource. Donc la ressource, elle est moins abondante, on l'a dit, je pense, depuis ce matin. Et par contre, donc, l'exercice qui reste, c'est le gâteau qui est un petit peu moins gros. Comment on va le partager? Alors comment on va aussi mieux gérer les stocks? Comment on va, donc, il y a l'exercice de sobriété. Il y a tous les exercices d'avoir une meilleure efficacité de l'utilisation de l'eau. Mais l'exercice qui est à faire au niveau des territoires, c'est celui-là.
C'est l'aménagement du territoire. Maintenant.
Comment?
C'est l'aménagement du territoire qui est derrière.
Mais c'est l'aménagement du territoire et puis la discussion avec tous les acteurs. Donc je pense que c'est des choses qu'on va voir cet après-midi. Donc voilà, les solutions et comment tous les acteurs, finalement, ben, veulent essayer d'avoir la partie la plus intéressante possible du gâteau, puisque donc l'eau, c'est la vie quand même. Et voilà. Et donc comment est-ce qu'on le répartit de manière... Et donc il y a un choix politique de regarder comment on répartit cette ressource en eau. Mais ce qui est sûr, c'est que cette ressource en eau, elle est moins abondante demain. Elle sera moins abondante sur le territoire. Et donc, voilà. Donc, il y a des efforts à faire pour donc, mieux la répartir. Donc, elle est moins abondante. Donc, donc on peut améliorer l'efficacité de la gestion, mais il y a un effort forcément de sobriété, donc, comme ça a été introduit ce matin.
Alors, autour de ce verre d'eau, vous avez quand même remarqué, ce qui est la moindre des choses, qu'on n'avait pas balancé des bouteilles plastiques, on se serait fait incendier, puis même, ce n'est pas dans notre mentalité. Vous mettez autour de ce verre d'eau un énergéticien, EDF, la chaîne, peu importe, Vous mettez un loueur de pédalo, vous mettez un agriculteur, vous mettez un industriel, vous mettez un particulier, vous mettez un restaurateur, etc. Et c'est la même quantité, c'est ce que vous êtes en train de nous dire. Donc ça va être une question, comme on dit très joliment, de gouvernance qui va se passer. Qu'est-ce que l'on constate aussi, donc aujourd'hui, Emma, par rapport à ça ? Jusqu'à présent, on va dire que là, si je parle de la France, que si on rentre dans la gouvernance de l'eau, c'est incompréhensible pour le grand public. Tous les techniciens le savent très très bien, mais si vous posez la question de savoir ce que c'est qu'un SDAGE, qu'un SAGE, une loi GEMAPI, etc. et tout, non, mais c'est des acronymes. Alors évidemment que derrière tout ça, il y a des véritables réalités, hein, attention. Hein. Un EPTB aussi, qui est extrêmement important, et surtout pour l'étiage de la Garonne. Mais ça va être quoi ? Comment on voit les choses ? À quoi on est prêt ? À quoi on est prêt à renoncer ? Et qu'est-ce que l'on pourrait accepter, chère Emma ?
Je crois qu'on est vraiment dans la peau de chagrin de Balzac, qui a tendance à se réduire. Et effectivement, avec tous ces utilisateurs qui, eux, ont tendance à vouloir grandir. Parce que les modèles de société que l'on nous a imposés, ce n'est pas de faire le même chiffre d'affaires chaque année. C'est de faire un chiffre d'affaires supérieur à celui précédent. C'est ça notre gain de réussite, c'est ça notre... Et on le voit très bien à l'échelle des grands groupes comme des petites entreprises. On a tous envie de faire mieux, on a tous envie de dégager des marges. Et quand on se met à comprendre que derrière tout modèle économique, je dis bien tout modèle, ne se cache que de l'eau, eh bien, on commence à peut-être prendre un petit peu de recul. Et je crois qu'on doit, de manière très lucide, regarder notre vulnérabilité, regarder... la manière dont nous sommes dépendants de l'eau. Oui, l'eau, c'est la vie. Oui, l'eau irrigue aussi nos cerveaux et nos cœurs. Grâce à ça, on a un peu d'intelligence et d'amour, heureusement pour nous. Gardons-la. Mais effectivement, l'eau, c'est aussi tous les systèmes économiques. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on voit très bien dans les zones où ça se restreint. Regardons les Pyrénées-Orientales. Regardons les tensions qui sont en train de naître entre l'arboriculture et le tourisme. On est sur un territoire qui a toujours vécu d'une activité touristique très forte et qui est toujours d'ailleurs d'une arboriculture extrêmement importante. Et donc, eh bien, ça signifie qu'on arrive à l'heure des choix. À l'heure des choix et à l'heure surtout du fait de choisir des bonnes solutions. Et donc, eh bien, on est tout de même très enclin, alors pas sur votre territoire, parce que vous n'avez pas derrière cette bord du littoral, mais on envisage tout de suite, très vite, de se dire, bah, finalement, désalinisons l'eau de mer. 96% de l'eau dans le monde, c'est de l'eau salée, c'est l'eau de nos océans. Regardez les Émirats arabes, ils ne font que ça. C'est très simple.
Regardez Israël, qui est très en avance aussi, etc.
Et comprendre ce qui se cache derrière, c'est là où ça devient intéressant. Pour pouvoir désaliniser massivement de l'eau, vous avez deux méthodes. Sans rentrer dans les détails, il y en a une, vous réchauffez l'eau, vous récupérez la vapeur d'eau. L'autre, vous allez prendre de l'eau et vous allez mettre une hyperpression sur une membrane qui va permettre de conserver les sels d'un côté et hop, de faire passer l'eau douce de l'autre côté. Ça demande de l'énergie. La question de la désalinisation est une question avant tout énergétique. Lorsque vous appelez les Émirats arabes unis, E-A-U, O, pardon, je ne sais pas si tout le monde l'a, mais c'est pas grave. Eh bien, lorsque l'on regarde ce qui se passe, vous n'avez pas un fleuve qui traverse ce pays. Et donc, par contre, ce qu'ils ont, c'est du pétrole. Il est très facile de prendre de l'or noir et de le transformer en or bleu. Donc, pour eux, c'est très simple. La logique et le développement qu'ils ont, c'est vider finalement leurs réserves pétrolières pour pouvoir ensuite avoir d'immenses turbines et pour pouvoir récupérer de l'eau de l'eau de mer. Leur seul éventuel problème technique, c'est qu'il y a trop de méduses qui se collent dans les grilles, parce que quand vous récupérez avec des énormes aspirateurs de l'eau océanique, vous récupérez un petit peu tout ce qu'il y a dans cette eau. Et donc, ils envoient des plongeurs pour derrière décolmater ces méduses.
On ne peut même pas faire de cassoulet de méduses. Donc,
non, ça ne marche même pas.
C'est que de la flotte, hein, pratiquement une méduse. C'est ça.
Donc, et puis, on va passer dans des process où, effectivement, on utilise jusqu'à 12 produits chimiques. Et puis, à un moment donné, on va récupérer cette eau qui est utilisée pour faire ces hôtels luxuriants que l'on peut trouver à Dubaï ou ailleurs. On voit très bien que tous les pays ne sont pas logés à la même enseigne. Nous avons aujourd'hui une vraie crise énergétique. Cette crise énergétique n'est avant tout quasiment qu'une crise générée par la question de l'eau. Si vous voulez faire du nucléaire, si vous voulez aujourd'hui faire de l'hydroélectricité, il vous faut de l'eau dans vos barrages. Il vous faut de l'eau avec un débit suffisant pour pouvoir faire du nucléaire. Et on ne sait poser des questions qu'en superficialité. C'est-à-dire qu'on sait poser des questions basées sur nos peurs. Allons-nous manquer d'énergie ? Oui. Attention, donc fonçons sur le nucléaire. C'est la solution. Mais pour le moment, les formes nucléaires existantes, elles ont besoin d'un débit dans les cours d'eau. Parce que nos centrales thermiques et nos centrales nucléaires, pour faire des grands chiffres en France, vous avez 32-33 milliards de pluie qui tombent, alors un peu moins ces dernières années. Mais sur ces 32-33 milliards de pluie qui tombent, eh bien, enfin, de pluie qui est utilisable directement, parce qu'il en tombe 510 milliards, le deux tiers repart dans l'atmosphère, mais sur ce qui arrive dans nos cours d'eau, la moitié, c'est-à-dire une molécule sur deux de tous nos cours d'eau, passe dans un circuit de refroidissement nucléaire ou thermique. Et donc, comprendre ça, c'est comprendre qu'effectivement, on a besoin de beaucoup d'eau pour nos données énergétiques. Et donc, si on ne veut avoir un territoire qui génère une croissance, tel qu'on l'entend encore, je ne sais plus ce que veut dire ce mot croissance, mais en réalité, en tous les cas, avoir suffisamment d'énergie, eh bien, il faut de l'eau. Et il y a d'autres questions énergétiques qu'on ne s'est absolument pas posées. On a foré massivement partout pour aller chercher des puits de pétrole. On ne s'est pas trop posé la question de ce qui se passait derrière. D'ailleurs, est-ce que si on enlève ces volumes de pétrole qu'on met en surface, effectivement, on va récupérer trop de CO2 dans l'atmosphère. Et donc, on voit très bien que ce fossile nous amène cette question. Mais surtout, il faut savoir que pour pouvoir aller chercher du pétrole, il faut injecter de l'eau douce. Et ça, eh bien, on va la chercher dans les nappes dans le monde. Pour pouvoir faire du charbon, pour pouvoir réactiver les centrales à charbon, eh bien, il faut de l'eau douce. La Chine s'est retrouvée en 2021 avec tous ses barrages à sec. Eh bien, elle a réactivé ses usines de charbon qu'elle n'a jamais pu mettre en œuvre, tout simplement parce qu'elle n'avait pas assez d'eau. Elle a fini par aller chercher du gaz naturel liquéfié qatari. Comprendre ces questions-là, comprendre que ce sont des questions de géopolitique mondiale, mais surtout que toutes ces formes énergétiques, et même le solaire et l'éolien qui n'ont pas besoin d'eau directement, en ont eu besoin dans le process de leur fabrication. Et donc pour ça, on est en train aujourd'hui de vider toutes les nappes phréatiques de l'autre côté, dans le désert d'Atacama, on va chercher du lithium, mais on a aussi un grand triangle blanc, de cet or blanc dans l'Amérique du Sud, qui nous permet de construire aussi notre mobilité et notre écologie. Comprendre ça, c'est comprendre que nous n'avons depuis trop longtemps pas assez bien regardé la question de l'eau, et pas que l'eau de notre robinet, pas que l'eau de notre douche, pas que l'eau de notre rivière, de l'eau effectivement cachée dans tous nos modèles sociétaux. Aujourd'hui, et une étude est parue il y a à peu près 8 mois, elle est tout de même édifiante. On a presque l'impression que c'est un gag, tellement c'est absolument invraisemblable. Nous avons tellement prélevé d'eau souterraine dans tous nos pays dans le monde que, eh bien, nous avons ressorti une masse qui était en profondeur, que nous avons mis en superficie. Eh bien, ça a fait bouger l'axe de la Terre et on a fait pencher l'axe de la Terre de 80 cm vers l'est. Comprendre que nos modèles économiques, c'est aussi ça. Comprendre qu'on a une petite Terre qui, aujourd'hui, d'ailleurs, est en phase d'équinoxe, mais qui fait sa procession tranquillement autour du Soleil et que par nos modèles, par nos modes de vie, nous sommes capables de la basculer, c'est comprendre à quel point nous avons aujourd'hui une incidence sur le milieu. Jusque-là, nous n'avions pas les yeux pour voir. Et aujourd'hui, on est dans un territoire qui met en œuvre du spatial, et grâce au spatial, qui est aujourd'hui l'avenir pour moi de demain, parce que ce seront les yeux pour voir, eh bien, nous avons un satellite qui a été lancé par la NASA qui nous a permis de comprendre ce qui se passait sous Terre. Le résultat est assez édifiant. 21 des 37 aquifères du monde entier sont en voie de tarissement. Personne ne s'est jamais posé la question sur le fait que nos nappes étaient en train de se tarir. Il y a eu un article dans le New York Times qui est paru après 6 mois de travail de journalistes qui ont analysé 60 000 points sur tous les États-Unis. Eh bien, aujourd'hui, la plupart des nappes phréatiques aux États-Unis sont en voie de tarissement. Pourquoi ? Parce qu'on prélève beaucoup plus qu'on laisse l'eau pénétrer dans le milieu. Tant qu'on ne comprend pas qu'à un moment donné, il faut un équilibre dans tout, tant qu'on ne comprend pas que ce n'est pas la solution, eh bien, on ira dans un mur. Et ce mur-là, il sera alimentaire, il sera énergétique. Et donc, si on ne se pose pas ces questions-là et qu'on ne commence pas dès maintenant à effectivement sanctuariser cette eau souterraine, eh bien, nous n'avancerons plus dans le bon chemin parce que nous n'aurons plus le socle pour pouvoir le faire. Voilà quelques éléments pour nous permettre philosophiquement de réfléchir à nos modèles.
On tire le fil de l'eau. Quand nous tirons le fil de l'eau et quand nous tirons aussi le fil du foncier, que ce soit en France ou ailleurs, vous avez toute l'histoire humaine, évidemment, qui en découle. Donc, il y a globalement un tout petit rappel, il n'y a que les fous et les économistes pour penser qu'on peut avoir une croissance infinie dans un monde fini. Cette formule, elle est connue, mais elle est effectivement extrêmement valable. Ça ne veut pas dire pour autant qu'il n'y a pas, effectivement, c'est toute l'interrogation de la notion de progrès, de savoir ce qui doit croître, ce qui doit décroître. Je pense que dans cette salle, vous êtes aussi à peu près au point. Le mot de sobriété, ça c'est bien, parce que notre président de la République l'a employé. Donc maintenant, ce n'est plus un gros mot. Bon, voilà. Non, mais il l'a employé. Donc il l'a dit. Alors après, de là en faire un quelqu'un de la sensibilité très écologique affirmée, c'est une autre histoire, mais ce n'est pas le débat. Mais donc, c'est ça. Alors, une chose avant de passer aussi à la suite, mais c'est bien ce que tu as aussi commencé à parler un peu de certaines solutions, qui sera quand même notre deuxième partie de matinée. Jean-Michel, juste quelques mots, parce que ça va vous faire aussi du bien, sur un programme Life, Eau et Climat, qu'est-ce que c'est, ça?
Donc, ce projet, donc, dans lequel justement donc les collègues du SMEAG, voilà, du syndicat mixte d'études d'aménagement Garonne, sont très impliqués. Donc, c'est un projet.
Alors ça, ce sont nos amis quand même qui soutiennent. Non, mais ils s'occupent de l'étiage quand même de la Garonne, avec Jean-Michel Fabre ici, son président. Mais je veux dire que c'est important. Si vous avez de l'eau qui coule, c'est parce qu'il faut mettre quand même un petit peu tous les acteurs là aussi en ordre de bataille, que ce soit évidemment en amont, donc avec l'Ariège, avec EDF, avec les bassins, parce que sinon 90% de votre eau qui passe là au Bazac ou ailleurs, ça vient quand même des grands barrages. Et puis aussi, donc après, le Lot, le Tarn, etc. Donc il faut que tout le monde soit à peu près d'accord.
Et ce projet LIFE, il est parti d'un constat, c'est qu'aujourd'hui, dans les documents de planification sur l'eau, aujourd'hui, bien, on n'intégrait pas le changement climatique. Ça paraît assez incroyable, mais c'était comme ça. Alors dans le SDAGE, le schéma directeur, oui, mais dans les schémas locaux, aujourd'hui, enfin jusqu'à peu, on ne savait pas prendre en compte le changement climatique. Et donc ce projet LIFE, donc avec des différents partenaires, dont bien sûr le syndicat mixte, le SMEAG, eh bien c'était de travailler donc pour prendre en compte, pour être capable de prendre en compte et d'adapter la gestion de l'eau sur le territoire, donc avec le changement climatique. Donc voilà, et donc c'est ça le projet. Donc Météo France donc développe notamment un portail pour mettre à disposition les simulations hydrologiques. Voilà, c'est des résultats. Ben il y en a certaines qui sont affichées là à l'écran. Donc voilà, ça vient quelque part donc de ce projet Life Eau et Climat, parce que donc il y a un portail.
T'as quand même beaucoup de moins, hein. Moins cumul de précipitations.
Alors,
moins 3%.
Pour les températures. Donc,
les
températures et l'évaporation.
Super, ça monte, là.
Elles augmentent et ensuite donc toutes les voilà tout ce qui relève de la ressource en eau, ben ça diminue les précipitations, la fonte de la neige au 1er. Mais c'est spectaculaire à quel point ça baisse, parce qu'à la fois on a moins de neige dans les Pyrénées et puis la fonte elle se produit plus au 1er mai, elle se produit en avril. Voilà, et donc sur ce, voilà. Donc la difficulté c'est aussi, donc si on regarde l'évolution des débits moyens de la Garonne, donc à portée sur Garonne, c'est la station dont nous a parlé, donc dont on nous a parlé ce matin, donc sur la moyenne annuelle, alors donc on est sur des chiffres qui sont encore à préciser, donc de l'ordre de -10-15%. C'est la moyenne annuelle. Mais l'élément le plus important, c'est la baisse l'été et l'étiage. Et donc là, c'est plutôt de l'ordre de -40%, ce que l'on attend. Parce que donc, ben justement, par rapport à la neige dans les Pyrénées, le fait quand la neige a fini de fondre dans les Pyrénées, on dit que c'est le début de l'étiage pour la Garonne. Et donc, ben, au lieu de se produire en juin, ben, il va se produire en mai. On va gagner, entre guillemets, allonger un mois. Et c'est aussi un mois de plus à l'automne, souvent, parce que la reprise des écoulements, elle est très tardive. Et donc, le soutien d'étiage du SMEAG, eh bien, il se prolonge de plus en plus, hein, donc de saison en saison. Enfin, je pense qu'on aura l'occasion peut-être d'en parler cet après-midi. Mais c'est,
non, mais c'est vrai que
une difficulté importante.
La majorité donc, effectivement des lâchés, c'est septembre-octobre. C'est pas forcément dans la période aussi d'avant.
En tout cas, donc il faut la saison de soutien de la Garonne, elle s'allonge toujours plus. Et donc voilà. Et donc à l'horizon 2050, c'est encore un mois supplémentaire et des débits d'été qui seront encore plus bas.
Alors, lorsque moi je disais que la neige, c'était de la pluie qui s'écoule lentement, bah maintenant, oui, elle s'écoule, mais elle s'écoule un peu plus rapidement. Juste quelques mots avant de regarder donc une vidéo qui n'a pas duré longtemps, mais qui est très intéressante aussi, qui va nous faire une liaison. Je ne sais pas si ce sera une liaison. Si, on va passer après sur les solutions. Et alors, j'oublie pas, hein, on vous aurez un temps de parole. Hein, ne vous inquiétez pas, vous aurez un temps de parole. Bien. Mais bon, on est parti comme ça, et puis voilà. Et puis, c'est le cas de le dire, on est chaud. Il ne faut pas qu'on soit trop d'ailleurs, parce que sinon, ça va réchauffer l'atmosphère. Sur la Catalogne, allez, un petit mot quand même, parce que ça va amorcer le truc. On va voir quelqu'un, mais qui ne nous parle pas forcément de ce qui se passe. Il va nous parler, on va dire, plutôt de solutions. Bon, on a bien compris que c'était chaud. On est ravitaillé maintenant par bateau. Qu'est-ce que l'on peut dire?
Ce qu'on peut dire, c'est que nous avons face à nous la première capitale européenne, qui est Barcelone, qui est en train d'arriver quasiment devant un mur. Qui a très peu de solutions, qui a un peu tout tenté, en tous les cas, sur son territoire. On a une énorme usine de désalinisation d'eau de mer qui est pourtant une des plus performantes et une des plus récentes et une des plus vertueuses, si on peut dire, parce qu'on ne rejette plus la saumure juste en proximité littorale et on conserve les produits chimiques. On la rejette plus loin en mer. Donc, il y a tout de même toutes ces solutions qui sont mises en œuvre, mais malgré tout, eh bien, on voit à quel point, tant qu'on ne restaure pas les milieux, tant qu'on ne comprend pas à quel point c'est nos sols et c'est notre végétation qui régénérera la pluie, eh bien, en réalité, on est en train de s'enfoncer peu à peu. Effectivement, les cargos arrivent les uns derrière les autres. On se pose de véritables questions de l'autre côté de la frontière, effectivement, quand on traverse les Alberts avec les Pyrénées-Orientales. Mais surtout, eh bien, il y a des villes comme Rosas qui, si cet été, il n'y a pas de pluie, eh bien, il n'y aura pas d'eau. Donc, ça signifie qu'une ville de cette ampleur sur la Costa Brava, eh bien, ne pourra pas accueillir 100 000 touristes. On imagine l'impact sur le plan économique. Donc, ce sont ces vraies questions qu'on doit se poser aujourd'hui parce que, eh bien, le mur arrive très rapidement. Il y a 2-3 jours, pour élargir un petit peu la zone géographique, il y a de nombreux hôtels marocains qui ne pouvaient plus assurer de douche. Alors qu'il s'agissait encore de la dernière réserve sur le plan touristique. On voit très bien que le Portugal, qui a une énorme réserve qui normalement permet de l'hydroélectricité, qui est remplie normalement à cette période de l'année à 90%, est remplie à 6%. Donc, eh bien, il y a de véritables questions économiques, de véritables questions également sur le plan alimentaire. Alors, on continue malgré tout sur les côtes d'Almeria, quand on va beaucoup plus au sud de l'Espagne, de désaliniser massivement. On pille également toutes les nappes, tellement que pour nos tomates qui sont fabriquées dans le sud de l'Espagne, eh bien, elles sont directement salées parce qu'on va tellement chercher de l'eau profonde qu'en fin de compte, on ne retire que de l'eau salée. Et on méconnaît tous ces équilibres entre les eaux douces et les eaux salées. Et je crois que c'est vraiment des questions essentielles aujourd'hui. Il faut comprendre que la vie, elle n'aime pas le vide. Elle la remplit toujours. Autrement, il s'agit de la même chose pour l'eau. Si vous n'avez pas assez d'eau qui s'évacue dans une embouchure, si vous considérez sur tout le long de son trait que cette eau vous appartient et que la voir passer devant vous, c'est une perte, eh bien, ce que l'on ne comprend pas, c'est que s'il n'y a pas assez d'eau qui s'évacue d'eau douce en direction de la mer, c'est la mer qui remonte. Comprendre ça, c'est commencer à comprendre qu'il y a des enjeux de contamination par cette eau salée dans toutes les bordures littorales. Et donc, ce sont des faits essentiels parce qu'on peut aller très très loin. Si je vous emmène au Mississippi, vous regardez les débits qu'on a eus récemment. On a l'impression que ce sont des véritables filets d'eau, tout comme l'Amazone, d'ailleurs, l'année dernière, qui a atteint une sécheresse extrême au mois de novembre. Eh bien, effectivement, étant donné qu'il n'y avait plus assez d'eau qui s'écoulait, l'eau salée remonte sous la forme d'un biseau, parce qu'elle est beaucoup plus lourde, et donc elle est venue contaminer les terres et les nappes qui permettent d'alimenter la Nouvelle-Orléans en eau. Alors vous allez me dire, c'est très très loin de chez nous tout ça.
Mais dans le Rhône.
Mais, j'aurais cité la Loire d'abord,
allez, vas-y, et après je redescendrai sur la Loire. Commençons par le Nord.
Mais sachez qu'en 2022, eh bien, nous étions à 100 mètres d'avoir une ville comme la ville de Nantes qui n'avait plus d'eau potable. Pourquoi ? Parce que, eh bien, il n'y avait plus assez de débit qui s'écoulait jusque dans l'océan. Et donc, en fait, le bouchon vaseux, qui est cette limite en fait, entre les eaux douces et les eaux salées, est remonté. Il est rempli de métabolites. Il est rempli d'un certain nombre de produits en tout genre que cette Loire peut récupérer. Eh bien, elle est remontée à 100 mètres de la station de potabilisation. Et donc, à 100 mètres près, nous n'avions plus d'eau potable et il fallait alimenter en bouteilles cristallines ou en camions-citernes une ville comme Nantes. Nous ne sommes pas prêts à ces questions-là. Nous regardons les choses à l'autre bout de la planète et nous avons l'impression que ça ne nous appartient pas. Et donc, je crois qu'il va falloir conjointement réfléchir tous ensemble aujourd'hui, arrêter avec cette illusion de croire qu'est quelque chose que j'entends depuis des années. Et c'est pas parce que derrière c'est quelque chose que l'on dit que pour autant c'est une vérité. Hein. Arrêtez de croire que quand cette eau passe devant vous, parce qu'elle ne s'écoule pas pour vous, eh bien elle est perdue. Elle n'est absolument pas perdue, ça s'appelle le cycle de l'eau. Il est naturel, il est normal, et si vous voulez que cette eau revienne, il vaut mieux qu'elle parte. Et donc comprendre ces bases-là, comprendre à quel point ça fait tellement de décennies qu'on a une vision totalement anthropocentrée sur notre eau, à quel point nous ne regardons l'eau que comme un bien qui doit appartenir à l'homme, alors que le premier utilisateur de l'eau dans le monde, eh bien, c'est la nature. Et nous faisons partie de cette nature. Nous avons besoin de cette eau pour nous nourrir. Nous avons besoin, si nous sommes tous habillés dans cette salle, c'est parce qu'il y a eu beaucoup de coton qui a poussé. Et si ce coton a poussé, eh bien, c'est parce qu'il a fallu aller chercher aussi, soit dans les nappes, soit en détournant en grande partie deux grands cours d'eau qui allaient jusque dans la mer d'Aral pour pouvoir alimenter l'Ouzbékistan. Comprendre ces bases-là, comprendre aussi l'histoire de la manière dont on a dérouté nos fleuves et ce que ça génère des générations après, parce que cet historique, c'est Staline qui l'a imposé. Il a pris 1,2 million de punis de la guerre, qu'il a amené en Ouzbékistan, à qui il a donné une pioche, à qui il a demandé de faire un canal pour dériver de grands cours d'eau, et donc qui aujourd'hui permet d'avoir de la fast fashion mondiale. C'est-à-dire qu'il n'y aurait pas eu Staline, nous n'aurions pas aujourd'hui de grands supermarchés
de la mode. Il a créé de l'emploi, Staline, il a créé de l'emploi.
Eh bien, comprendre ça, c'est comprendre que cet héritage très anthropocentré, avec cette vision de dire « cette eau m'appartient et je serai au-dessus des lois de la nature parce que je vais prendre une steppe désertique et je vais la transformer en une plaine luxuriante en détournant des eaux », eh bien, c'est comprendre qu'à un moment donné, nous ne sommes que cet élément de la nature et finalement, ça nous ramène beaucoup à notre vulnérabilité. Et déjà, commencer à en prendre conscience, c'est devenir plus résilient.
Alors, comme je n'ai pas du tout un... Comme la vidéo n'est pas complètement sur Staline, mais sur la Catalogne, quand même, dis-moi juste un mot, là, Jean-Michel.
Donc aussi, oui, donc c'est sûr qu'après Emma, je vais revenir sur des choses de plus sur les processus et peut-être pour amener des éléments de pédagogie, d'avoir bien en tête qu'est-ce que ça nous montre ce qui se passe aujourd'hui sur la Catalogne, la Catalogne espagnole, mais aussi la Catalogne française, on l'a bien en tête, c'est le même phénomène, bien sûr. Et donc ce que ça nous montre, c'est que le changement climatique, on l'a vu, donc aujourd'hui, donc, c'est une ressource en eau qui diminue, mais c'est aussi plus de variabilité. Voilà. Et donc, il faut avoir en tête que cette variabilité, on l'a connue sur notre territoire en 2022 et en 2023. Aujourd'hui, donc, les Pyrénées-Orientales, eux, ils n'en sont pas sortis de cette variabilité. Et donc, ça, les extrêmes sont plus accentués. Et ça veut dire qu'il faut se préparer, pas seulement à avoir une diminution de la moyenne, mais aussi à avoir donc, un système qui soit résilient lorsqu'on rencontre des crises aussi sévères que celles que l'on a aujourd'hui sur la Catalogne, et qui est une crise qui combine à la fois, on le voit bien, des effets naturels, le fait d'une ressource en eau qui est moins abondante, et puis des choix d'aménagement qu'on est obligé d'interroger parce qu'une ressource en eau moins abondante dans un contexte où la demande, elle continue à augmenter et où donc on a des effets de ciseaux qui deviennent impossibles à résoudre. Voilà. Et donc, en tout cas, c'était pour rappeler que le changement climatique que l'on vit et que l'on va devoir encore subir pendant un certain nombre de décennies, c'est une évolution des moyennes, mais c'est surtout des extrêmes qui sont plus intenses, à la fois donc des extrêmes de sécheresse, et puis on le voit aussi à certains moments des extrêmes, des excès d'eau Donc les territoires du nord de la France l'ont vécu cet hiver, mais rien ne nous garantit que dans les prochaines années, les prochains mois, nos territoires n'aient pas aussi à connaître ces événements d'excès d'eau. Et en particulier, les régions méditerranéennes sont habituées à connaître à la fois sécheresse et inondation en l'espace de quelques semaines.
Donc vous comprenez bien pourquoi effectivement on a commencé. La première question de Maziza, c'est nous entrons effectivement dans l'inconnu. Mais ne pas entrer dans la peur, ce qui est très différent. Donc l'inconnu, oui, mais la peur, non, parce que là, dans notre grande série Mauvaise conseillère, ce n'est pas la peine.
Même audio ? Une mémoire sonore.
Et là, on a envie de passer quand même à une seconde partie qui est celle après les constats. Mais on a déjà évidemment, ce qui est normal, un petit peu débordé. Enfin, on touche aux problèmes de société, on vous l'a dit. Hein. C'est des problèmes de réaménagement, c'est des problèmes de recoloniser aussi donc un petit peu nos cerveaux avec tous ces sujets sur les solutions. On a commencé effectivement à parler du sol. La clé de sol. Eh bien, justement, c'est évidemment une des solutions. Qu'est-ce que l'on peut faire? Tu as commencé donc tout à l'heure à le dire, chère Emma, mais c'est extrêmement important. C'est important pour tout le monde, c'est important pour les agriculteurs, c'est important pour la nature, c'est important. Voilà, tout le monde peut s'y retrouver dans cette histoire. Une des solutions, donc le sol, qu'est-ce que l'on fait?
Donc,
avec le grand, pardon, et aussi je vais plus loin que ça, c'était effectivement comment on va dire, renaturer ce grand cycle.
Oui, pour pouvoir restaurer en fait ce cycle. La meilleure solution, c'est effectivement de prendre cette pluie lorsqu'elle tombe et de la capter et d'augmenter cette capacité d'infiltration. Alors, comment ça se passe dans nos villes? Eh bien, dans nos villes, nous pouvons de plus en plus avoir des collecteurs d'eau dans nos gouttières, récupérer de l'eau des toitures, réussir ensuite à permettre à cette eau de générer à nouveau du vivant. Aujourd'hui, on sait le faire. Et aujourd'hui, on n'a pas encore assez réfléchi. Je vous donne deux exemples. Vous avez deux villes, une ville comme Belfort, très haut à droite en France, qui, elle, a fait le choix, par exemple, de planter massivement des arbres pour pouvoir travailler ces questions d'îlots de chaleur urbains et qui, pour autant, eh bien, a aussi créé des sortes de citernages souterrains pour pouvoir permettre ensuite, durant les phases où eh bien, il n'y a plus de possibilité d'arroser parce qu'il y a des arrêtés de sécheresse, de pouvoir malgré tout alimenter ces arbres en eau. Ça veut dire qu'ils ont réfléchi avec deux coups d'avance. Une autre très grande ville, une des plus grandes villes françaises, a massivement planté des arbres et eux n'avaient pas ce coup d'après. Donc, ils se sont retrouvés face à un arrêté de sécheresse préfectoral et donc ils ont vu tous ces arbres mourir sur pied. Ils ont eu une dérogation pour pouvoir conserver ceux qui avaient entre 0 et 3 ans et malgré tout les arroser. Le problème, c'est que c'est souvent les plus âgés qui captent le plus de carbone.
Sont les plus intéressants.
Donc, comprendre déjà ces bases-là, c'est à quel point dans la ville, eh bien, il va falloir remettre de la végétation. On en a besoin parce que le meilleur climatiseur naturel, et on va avoir sacrément besoin de climatiseurs dans les étés à venir, c'est l'arbre. L'arbre transpire, tout comme nous transpirons quand nous avons chaud. Et donc, en fin de compte, on va réussir avec cet arbre à capter effectivement de l'eau. Alors, vous savez, souvent, quand on regarde qu'une phase, qu'un bout de la lorgnette, moi, j'ai déjà entendu des arguments me dire oh, « Mais vous ne vous rendez pas compte, un arbre, ça prend 1000 litres d'eau par jour. Il faudrait tout de même récupérer cette eau ailleurs. Ouais. Eh bien, comprendre à quel point cet arbre, lorsqu'il va effectivement prendre 1000 litres d'eau, eh bien, il va permettre ensuite, par une pression de vapeur saturante, de refroidir le sol, de refroidir l'atmosphère locale, c'est comprendre que ça va nous rendre une terre vivable. En plus de ça, eh bien, cet arbre, comme je vous l'expliquais tout à l'heure, eh bien, il va générer ces bactéries, il va générer ce vivant qui va ensuite permettre d'avoir des nouvelles pluies. Donc, il va falloir remettre de la nature en ville, pas un peu, pas dans des parcs, pas dans des zones déterminées, partout. Partout. On en a besoin partout de cette nature. Et pour plusieurs raisons. La première, c'est que nous ne sommes faits nous-mêmes que de molécules chimiques. Ceux qui croient que derrière, ils sont au-dessus des lois de la nature, derrière, se rendent très vite compte que quand ça ne fonctionne plus, eh bien, ça va très vite. Eh bien, nous avons découvert, à travers différentes études qui ont été menées, notamment par Santé publique France, sur Paris, Petite et Grande Couronne, mais sur d'autres grandes agglomérations, à quel point tous ceux qui habitaient à côté d'espaces verts avaient des taux d'hospitalisation qui s'effondraient par rapport aux autres. Ça signifie qu'il nous faudra du vert pour notre santé. Ça signifie que si nous voulons tenir face aux canicules répétées, eh bien, il nous faudra, à un moment donné, rejouer avec cette verdure. Et donc, il va falloir mettre cette verdure partout, récupérer cette eau dans des rigoles, ensuite la permettre, soit dans des, même dans des bacs de terre où vous mettez des plantes, eh bien, ça va servir à du vivant. Et donc, comprendre ces logiques-là, c'est comprendre que là, on va dans le bon sens dans les villes. Il y a des grandes villes. Moi, j'ai vécu très longtemps à Montpellier. Pas très... Alors, quand on est parisien, Montpellier et Toulouse, c'est juste à côté.
Oui, c'est à côté.
Mais trois heures quand même. Mais je...
Les conseillers régionaux n'arrêtent pas de faire du pendulaire là-dessus. Ils ont dû exploser leur bilan carbone. Je ne sais pas comment. Bon, bref, vas-y. Donc,
Parce que la plupart des sciences de l'eau sont d'ailleurs à Montpellier. Et donc, en fait... on avait mené une étude sur tout le centre-ville. On avait été chercher tous les puits de la ville, tous les puits oubliés. On les avait tous recensés pour voir comment fonctionnait la nappe sous la ville de Montpellier. Une nappe qu'on a totalement oubliée puisqu'on ne l'utilise pas. On utilise de l'eau bien en amont dans la source du Lez pour alimenter la population en eau. Et donc, on s'est rendu compte que la seule zone d'impluvium, un impluvium, c'est la zone où l'eau est récupérée et rejoint la nappe. Eh bien, c'était le jardin des plantes. C'est tout de même fou que dans une ville de cette ampleur, eh bien, on n'ait que certains espaces verts ou certains jardins botaniques qui nous permettent de faire cette jonction entre l'eau atmosphérique et ensuite l'eau souterraine. Donc, je crois qu'il va falloir réouvrir nos espaces. Il va falloir faire respirer nos villes. Ça veut dire qu'il va falloir arrêter le béton massif. Ça veut dire qu'il va falloir effectivement plus de poreux. Alors, certes, tout n'est pas... évident, tout n'est pas simple. Faire du béton poreux, des fois ça marche, des fois ça se colmate. On ne sait pas comment gérer sur du long terme. Ce n'est pas si simple que ça. Mais en tous les cas, il va falloir essayer. Il va falloir vraiment essayer et apprendre. Essayer et apprendre. Nous sommes dans cette phase de l'apprentissage. Et puis, il va falloir, là où on peut, dans toutes nos terrasses, eh bien, venir enlever ces pavés de terrasses qui, en fait, étouffent nos jardins, étouffent nos territoires. Et donc, à partir de là, nous allons commencer à renaître avec des villes éponges. On ne manque pas de solutions. On manque de solutions pour mettre en œuvre des solutions. C'est notre seul problème aujourd'hui. Tant qu'on ne sera pas assez ambitieux et tant qu'on n'aura pas compris l'urgence d'aller vite, eh bien, derrière, nous serons là comme ça et nous continuerons à bouillir dans la marmite comme une jolie grenouille qui continue comme ça à regarder l'eau chaude et qui s'endort doucement. En plus, quand plus la température augmente, plus nos capacités cognitives diminuent. Donc, c'est quand
oui,
même assez problématique.
On devient un peu plus, vous voyez, un peu plus bas du plafond. On devient un peu plus con, d'ailleurs, aussi, faut dire, les uns les autres. Alors, moi, j'ai envie de te lancer aussi, parce que... Ah, je t'en prie.
Regardez ce qui se passe au Brésil. 62,3 degrés de température ressentie hier. Mais on est en plein hiver ici, et donc on a oublié les étés qu'on vient de passer. Donc, je crois qu'aujourd'hui, c'est maintenant qu'on doit agir. Et ce que je veux dire, c'est que chacun, à l'échelle de votre jardin, vous n'avez même pas conscience du pouvoir que vous avez sur le cycle de l'eau. Et donc, si nous tous nous y mettons, si nous tous nous agissons à l'échelle de notre territoire, à l'échelle de nos consommations, nous allons le transformer, ce territoire. Et ce qui est merveilleux, c'est que partout, partout, je voyage dans le monde entier, partout où je vois que l'on laisse respirer la nature, le cycle de l'eau se régénère, les sources renaissent, parce que la nature est résiliente. Faut-il qu'on la laisse respirer ? Et donc, c'est vraiment l'enjeu qu'on a devant nous. Voilà.
Soyez donc de merveilleux colibris, les uns les autres. Alors, je ne te relance pas sur le côté, ce que l'on entend. Oui, il faut barrer les rivières parce que cette eau-là donc, part à la mer. Tu l'as très bien dit donc, tout à l'heure. En revanche, fais-nous bien la différence entre les retenues de substitution et les retenues collinaires.
On y va maintenant là ?
Ah bah oui, parce que non, mais ça fait partie aussi de différentes solutions. Il ne s'agit pas du tout de donner un coup de pied. On n'est pas dans le on-off hein, dans cette affaire-là.
Donc, ce qui est assez intéressant, c'est de voir qu'on utilise le même champ lexical de retenue pour deux éléments qui n'ont rien à voir. D'un côté, vous avez effectivement des retenues collinaires qui vont récupérer des eaux de ruissellement et qui permettront, c'est des sortes de mini barrages, alors je pense que vous en avez pas mal dans vos territoires, et donc on en a construit à peu près 110 000 en France, donc c'est pas non plus quelque chose d'anecdotique, hein. On a toujours eu l'habitude d'en construire, vous montez dans les contreforts Cévenoles, vous en avez historiquement.
Il y avait une culture de l'eau, entre autres avec les biefs, etc. Et
exactement, tout. On a toujours joué en fait avec le fait de récupérer de l'eau, et donc quelque part, un peu comme si vous récupériez de l'eau à l'échelle de votre jardin dans un réservoir qui permet de conserver les eaux de pluie, eh bien, et ensuite vous arrosez votre jardin, eh bien, vous allez générer un effet retard sur le cycle de l'eau. Donc quelque part, vous allez un peu freiner l'eau. Le seul problème, c'est quand on en fait trop, parce que toute bonne solution est bonne jusqu'à un niveau d'équilibre. Si à un moment donné, vous prélevez la moindre eau qui s'écoule à l'échelle d'un bassin versant, eh bien à la fin, dans le cours d'eau, à l'aval, vous n'avez plus d'eau. Et donc c'est juste l'équilibre à trouver dans tous ces débits, mais c'est plutôt une bonne solution qui vient freiner finalement et retarder l'utilisation dans le milieu et surtout permet l'utilisation pour de nombreux usages. Et on voit le stress agricole ces derniers temps. Si nous n'avions pas ces solutions dans beaucoup de territoires, ce serait très complexe. La retenue de substitution, dite bassine pour les intimes, n'a rien à voir. Déjà, on est sur l'équivalent de 260 piscines olympiques pour une bassine. On est sur, bien souvent, un revêtement plastique. Et surtout, le vrai problème, et ce qui montre à quel point on a oublié l'héritage de notre territoire, est-ce que vous savez pourquoi on a des grands cours d'eau endigués ? Pourquoi, quand vous regardez la plupart des villes en France, vous avez un fleuve qui s'écoule, vous avez des digues partout, elle est bien maintenue, on a asséché massivement toutes les zones humides parce qu'on a très peur de l'eau qui croupit, parce qu'on a un historique très très fort avec le choléra en France. Et donc, en fait, durant des décennies et des décennies, toute eau qui pouvait croupir était une source de maladie. Donc il fallait assécher massivement. Et il fallait éloigner l'eau des villes et il fallait la contrôler. Et donc aujourd'hui, le problème d'une bassine, c'est d'abord un problème d'eau qui croupit. Si vous utilisez une petite baignoire en plastique que vous mettez sur votre balcon et que vous laissez de l'eau dedans, dans les premières heures, elle est pure. Au bout de 2-3 jours, elle commence à se transformer. Au bout de 3 semaines, 1 mois, elle finit en étant entre le jaune et le vert. Pourquoi ? Parce que vous laissez de l'eau qui va être soumise directement à un effet solaire. Premièrement, à l'évaporation et l'évapotranspiration. Et l'évapotranspiration à travers des systèmes algaires qui vont se développer massivement partout. Vous avez un autre problème. Eh bien, c'est le risque de salmonelle et de cyanobactéries. Et c'est un véritable sujet sanitaire qu'on ne peut pas laisser pour compte. Donc aujourd'hui, on le voit, et ce n'est pas moi qui le dis, j'étais dans une commission à l'Assemblée nationale où on a des faits avérés sur certaines bassines existantes. On est obligé d'envoyer des plongeurs pour aller décolmater les zones d'irrigation pour pouvoir, enfin les systèmes de pompage, parce qu'il y a trop de systèmes algaires qui finalement sont rentrés dedans. Donc ce sont des systèmes qui en plus ne fonctionnent plus. Ce qui est intéressant, c'est d'essayer de comprendre pourquoi tout ça a été mis en place. Pourquoi il y a une telle hystérisation dans le débat public aujourd'hui quand on parle de la question des bassines. Et c'est de l'eau qu'on va perdre, c'est de l'eau qu'on retire à la nappe, c'est-à-dire qu'on va générer beaucoup plus rapidement un ASEC sur la rivière. Si on a un ASEC et que vous n'avez plus d'eau, eh bien vous avez toute une chaîne trophique naturelle qui s'effondre. Donc, c'est-à-dire qu'on éteint le vivant volontairement pour pouvoir récupérer cette eau quand elle est encore accessible parce que, tout simplement, on a le droit de l'utiliser dans certaines périodes et on n'aura plus le droit de l'utiliser dans une autre. Et donc, qu'est-ce qu'il faut comprendre de tout ça ? C'est qu'au début des années 2010, nous avions à peu près 2% du territoire qui était dans un niveau de crise, c'est-à-dire qui basculait en niveau rouge. La France est un pays très protectionniste, plutôt, pour les ressources en eau. Alors, on n'a pas tout réussi, hein, le bon état écologique des cours d'eau, on cherche encore.
Et les zones de captage, quand même, c'était un gros bonheur.
Mais il n'empêche que par rapport à d'autres pays, on parlait de l'Espagne tout à l'heure, eh bien, nous avions une logique où nous avions un héritage qui était l'année de 1976. Cette année, elle a traumatisé le pays et on s'est dit, si on revit ce scénario-là, il nous faudra un arrêté préfectoral avec un niveau de crise. Et dans ce niveau de crise, nous aurons l'obligation de prioriser ce qui est nécessaire pour nos villes et pour
potable.
Nos... C'est-à-dire la salubrité publique, c'est-à-dire les hôpitaux, c'est-à-dire la sécurité civile. Et donc, à partir de là, nous interdirons l'irrigation dans cette année de crise. Ça, c'est ce qui a été imposé dans les législations qui ont été mises en œuvre. Le problème, c'est que quand on arrive entre 2017 et 2022, vous avez plus de 80, voire 90% du territoire certaines années qui vont être en système de crise. Ça veut dire qu'on dit à toute la profession agricole, eh bien, vous arrêtez d'irriguer tout de suite. Et donc, on ne peut pas à la fois, et ça a été dit tout à l'heure par le président du département, d'un côté aider la profession agricole à faire du maïs, irriguer, à l'entretenir, et derrière par des subventions, et en parallèle, du jour au lendemain, lui dire « ça s'arrête ». C'est cette question de la violence avec laquelle le changement climatique s'est invité dans nos vies. Quand je vous dis que la France est le pays qui se réchauffe le plus rapidement au monde, c'est cette vitesse de transformation. Et on n'était pas prêt. Donc on a cherché des solutions de contournement pour au moins respirer et pour permettre, quelque part, de tenir sur le plan économique le temps de trouver des solutions. Sauf que chaque année s'avère toujours un peu pire. Et donc, c'est vraiment ça la question qu'on doit se poser. C'est aujourd'hui, si on a foncé et on peut trouver tous les arguments que l'on veut pour dire que c'est une bonne solution, ça n'en est pas une bonne. Parce que tout simplement, sur tous les plans, en réalité, mettre de l'eau croupissante, ce n'est jamais positif pour un territoire. Et la première question qu'on devrait d'ailleurs se poser, c'est l'invasion du moustique tigre qui s'appuie justement sur ces zones où l'eau croupit. Et donc, on ne peut pas continuer de cette manière avec des réserves à ciel ouvert. Et donc, aujourd'hui, on doit penser différemment. Le problème, c'est que pour penser différemment, ça demande du temps. Ça demande parfois des années. On a aujourd'hui des capacités pour faire ce qu'on appelle de l'hydrologie régénérative. C'est-à-dire qu'on va être capable, et des territoires comme la Drôme, par exemple, initient cette démarche avec un certain nombre d'acteurs et disent, bon, bah, écoutez, nous, effectivement, il pleut beaucoup moins, il pleut différemment, il pleut plus violemment quand l'eau tombe. Et d'ailleurs, petite parenthèse, mais 50% des personnes qui ont été inondées sur ces 5 dernières années l'ont été par du ruissellement direct, c'est-à-dire en dehors de zones inondables. Ça doit nous poser la question, non pas de la cartographie de nos risques d'inondation, qu'on a plutôt bien fait en France, mais plutôt la question du fait que le risque est ailleurs et que le pouvoir du nuage est beaucoup plus fort, beaucoup plus précipitant. Parce que quand vous augmentez la température atmosphérique, vous augmentez cette capacité de pleuvoir. Et donc, vous allez générer beaucoup plus de pluie, beaucoup plus violente, cette pluie qui s'est évaporée plus vite, donc il y a de l'eau en suspension. Cette eau, elle ne reste que maximum 9 jours dans l'atmosphère et elle finit par retomber massivement. Donc voilà, je crois qu'on est aujourd'hui dans une phase où il faut regarder ce cycle de l'eau s'accélérer devant nos yeux. Il faut essayer de le freiner de toutes parts, le freiner dans nos villes, j'en ai parlé, le freiner dans nos champs. Nous avons encore trop d'engins agricoles qui compactent les sols. Il faut aller vers des solutions et des techniques et finançons-les pour derrière permettre justement de respirer les sols. Nous avons besoin de ce microbiote des sols, tout comme nous avons besoin de nos bactéries dans nos colons pour vivre. Eh bien, nous avons également besoin de ce microbiote dans les sols. Et penser qu'on va pouvoir s'en affranchir, eh bien, c'est avoir des sols qui finalement ne sont plus meubles et finalement sont directement vulnérables aux sécheresses et aux inondations. Donc, en réalité, on se tire une balle dans le pied à chaque fois. Donc, je vous parlais d'hydrologie régénérative sur la Drôme. Eh bien, c'est récupérer la moindre goutte d'eau et permettre de lui faire atteindre le chemin le plus long possible. Ça augmente la capacité d'infiltration dans les sols. Ça permet de restaurer les stocks et ça permet ensuite de tenir plus longtemps sur la fertilité des sols. Ça nous demandera nécessairement, parfois, de rogner sur des marges qui sont déjà complexes sur le plan agricole. Et donc, ça nous demandera aussi de mettre des financements massifs pour aller vers ces bonnes solutions. Regardez les millions d'euros dépensés par la Catalogne. Est-ce que vous avez vu à chaque solution qui était annoncée 150 millions d'euros, 130 millions d'euros. Si ces millions d'euros, on les met dans le bon sens et on va très vite, eh bien, on restaurera. Et pour ça, il ne faut pas se mettre dos à dos. Ça suffit de voir ces oscillations émotionnelles partout, sur tous les territoires, voir qu'il y aurait des gentils, des mauvais, des bons, des pas bons. On est tous ensemble, on est tous sur le même territoire. Avançons intelligemment et essayons de construire vraiment.
Faire, ça coûte.
Même audio, une mémoire sonore.